voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Gérard Mordilla. Ce soir, d'abord les mots.
Gérard Mordilla, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous poursuivons notre série de 5 émissions. Nous sommes aujourd'hui jeudi, 4e émission. Après avoir découvert votre enfance, puis votre travail de cinéaste documentariste, votre œuvre de fiction, riche et extrêmement mêlée à votre travail d'écriture, nous a occupé hier. Vous avez beaucoup écrit. Des essais, des romans, des œuvres parfois inclassables d'ailleurs, de la poésie aussi. Et j'ai trouvé une phrase de vous dans la Brigade du Rire qui m'a intéressé parce qu'elle livre, je crois, pas mal de choses de votre rapport au texte. Le livre en soi n'est rien, il n'est que le support du mot. La vérité de ce que nous sommes peut sortir de n'importe quel mot lu dans n'importe quel livre.
Je crois que la chose fondamentale pour moi, c'est bien sûr la lecture. Je crois que la grande invention de l'humanité, à mes yeux, plus que le feu, plus que la roue, c'est l'écriture. Et donc, à partir du moment où on interroge un texte, quel que soit ce texte, et j'ai travaillé aussi bien sur les textes chrétiens, musulmans, mais aussi sur le Capital de Marx ou d'autres choses, ce qui importe, c'est ça, parce qu'il y a une vérité du mot. Et je crois que j'avais entendu un jour un très vieux monsieur arabe dire que si on avait réellement lu un livre, on n'aurait plus besoin d'en lire aucun autre. Et je crois qu'il y a toujours ce rapport chez moi à l'interrogation sur la lecture. Comment lire? Comment mieux lire? Comment ne pas être pris la main dans le sac d'être un lecteur distrait?
Oui, il y a les livres, mais au-delà des livres, il y a les mots. Et par exemple, dans votre travail de radio, puisque vous avez fait beaucoup d'émissions, en particulier Les Papous dans la tête, des jeux littéraires dans lesquels on joue avec les mots, on joue avec les synonymes, les antonymes, vous dépassez un peu la question de la lecture du texte. C'est presque le mot est presque pris comme un objet en soi. De même que quand vous parlez de photo, puisque vous aimez beaucoup la photographie également, vous parlez de la photo et vous cherchez à dire ce qu'elle signifie. J'ai l'impression qu'avec les mots, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous les détachez même du contexte de la lecture ou de l'écriture.
Je crois que les mots prennent corps à mes yeux, et c'est toujours un étonnement pour moi d'entendre des lectrices ou des lecteurs parler de mes personnages comme des personnages réels. Pour moi, leur seule réalité est une réalité de mots. Ils sont là, ils sont incarnés par les lettres qui les forment. Ils n'ont pas d'autre réalité à mes yeux que celle-là. Mais je crois qu'effectivement, il y a cette question centrale sur la nature même du mot. Et il y a cette chose merveilleuse que j'avais découverte sur Gutenberg. Gutenberg, son premier métier, ça a été de faire des petits miroirs en plomb que les pèlerins accrochaient à leur chapeau. Parce qu'à son époque, le miroir avait la réputation de garder la permanence de l'image qui s'y reflétait. Donc, le pèlerin allait devant la sainte relique, ça s'imprimait, si je puis dire, dans le miroir, et il gardait ça comme une protection divine. Eh bien, c'est à partir de ce même plomb que Gutenberg a inventé les lettres mobiles qui sont à l'origine de la typographie, puis ensuite de l'imprimerie. C'est-à-dire que de ce plomb sont nés et l'image et le mot.
Est-ce que c'est pas pour cette raison aussi que vous avez fait un travail sur les écritures, sur les mots?
Bien
Jésus,
sûr.
Roi des Juifs.
Je crois qu'il y a là toujours quelque chose
sur les textes,
à découvrir.
Oui, comme une recherche archéologique.
Mais je ne vois pas de différence de nature entre des jeux littéraires que l'on peut faire et ce que l'on peut lire, par exemple, dans les textes néo-testamentaires. Je me souviens d'une chose extraordinaire. Émile Puech, qui est l'épigraphiste officiel de l'école biblique de Jérusalem, nous a fait un jour la démonstration que les béatitudes dans Matthieu, vous savez, heureux les pauvres, car ils verront le royaume, etc., etc., c'était écrit en grec, mais en grec sur un modèle prosodique hébraïque, c'est-à-dire que l'auteur s'était donné comme contrainte d'écrire, donc dans une langue indo-européenne, le grec, sur une structure grammaticale et syntaxique hébraïque. Eh bien, Qu'est-ce que fait l'Oulipo? Qu'est-ce que font les papous dans la tête? Qu'est-ce que font maintenant l'épingle du jeu? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce même type de choses? Alors, par moment, c'est pris sur le registre de l'humour, de l'autre côté, sur un autre registre. Mais en réalité, c'est toujours ce même souci du mot. Bel exemple aussi, magnifique exemple dans les Actes des Apôtres. Comment le persécuteur de Jésus, Saul, devient Paul, le principal apôtre. On change une consonne, et d'un personnage qui était tout noir, on en fait un personnage qui était tout blanc. C'est ça l'écriture.
Gérard Mondias, c'est cet amour des mots qui vous a conduit vers la poésie ?
J'ai beaucoup lu, et je lis toujours beaucoup de poésie. C'est quelque chose qui me parle très directement, et d'ailleurs je considère pour moi que le grand art littéraire est toujours l'art poétique, au-dessus des autres, parce que l'exigence du poème est à mes yeux supérieure, et très largement supérieure à toute autre exigence.
Vous avez commencé comme ça d'ailleurs, L'Aurore avec Geneviève Serrault. C'était votre premier texte, si je me trompe pas.
La première chose que j'ai publiée, je l'ai publiée effectivement aux Lettres Nouvelles, la revue de Maurice Nadeau, dont Geneviève Serrault était la secrétaire de rédaction. Et ça a été une grande chance pour moi, dans la mesure où la première fois que je proposais quelque chose, non seulement c'était publié, mais en plus j'étais payé. Donc j'ai invité Geneviève Serrault au restaurant pour dépenser tout de suite cet argent, et elle est devenue comme ça une très grande amie à moi.
Oui, être payé pour écrire de la poésie, c'est rare.
Oui, c'est très rare.
C'est un exercice qui rapporte pas beaucoup. Mais je vais vous citer encore, puis on va parler un peu de poésie, parce que ça m'a amusé de retrouver une phrase de Dylan dans La Brigade du Rire. Vous comprenez, c'est louche d'écrire de la poésie. C'est comme lire des magazines porno ou mater des films du même genre. Ça peut se faire, mais ça ne doit pas se dire, et encore moins s'exposer. La poésie, ça se diffuse sous le manteau. Il soupira. Pour tout le monde, la poésie, c'est emmerdant. C'est de la contrebande littéraire. Alors vous avez un jugement un peu sévère quand même sur vos poètes.
Non, je constate une chose. Il y a une très grande édition de poésie en France. C'est un secteur énorme. En même temps, on n'en trouve jamais dans les librairies, ou rarement. Et puis on se dit, cette énorme production poétique semble n'avoir aucune audience médiatique, par exemple, ni dans les journaux, ni à la télévision, ni à la radio, ni nulle part. Alors qui lit ça, sinon vraisemblablement ceux qui eux-mêmes écrivent de la poésie? Et c'est toujours, c'est vrai, quelque chose que l'on avoue avec réticence. Dire à quelqu'un « j'écris des poèmes », soudain il vous regarde en se disant « il doit être un peu fatigué de la tête pour faire ça ». Et c'est ça qui est terrible, parce qu'il n'y a pas la tradition qui existe, par exemple, aux États-Unis ou en Russie, de lecture publique où des poètes sont... Bah, Ginsberg était le modèle absolu d'une grande vedette, une star rock qui disait des poèmes avec... c'était absolument magnifique. Et je crois d'ailleurs que la poésie souffre de ça. Et moi, j'ai constaté une chose. À chaque fois que je suis dans une librairie pour une rencontre avec les lectrices et les lecteurs, si je parle poésie, il ne se passe rien. Si j'en lis, j'en vends toujours. Alors... Les gens ont... envie d'entendre.
Alors, lisez-nous un poème de vous, sauf si vous le connaissez par cœur.
Les enfants dorment. J'écris sur leurs paupières les mots secrets de leurs rêves. Petits enfants, soyez sages, sinon le diable vous emmènera à la Comédie Française. C'est extrait d'un recueil que j'ai publié au temps qu'il fait, qui s'appelle Le linceul du vieux monde.
Le linceul du vieux monde. Très bien, moi je vois que on va pouvoir vous engager pour lire des poésies à France Culture. Hein. Alors bon, là on retrouve aussi, en cherchant des influences, on a parlé de Geneviève Serrault, il y a Prévert qui a joué un rôle, vous avez écrit des textes d'ailleurs sur Prévert,
Oui.
Parce qu'il y a du Prévert dans Mordillat.
Je ne sais pas s'il y a du Prévert dans Mordillat, mais en tout cas j'aime beaucoup la poésie de Jacques Prévert et j'admire... encore plus, peut-être, le cinéma de Jacques Prévert.
Oui.
C'est-à-dire que je trouve que Prévert est ce personnage extraordinaire qui a été un très grand cinéaste sans jamais réaliser lui-même de films. Et quand on voit les films qui ont été réalisés par Marcel Carné, On se dit, oui, que Carnet était, au fond, le maître d'œuvre d'une chose qui le dépassait, parce que tout était porté par la langue de Prévert, par son sens extraordinaire du mot, du rythme, de la scansion, et que ça induisait directement les plans qu'il fallait tourner. Et quand on lit les scénarios de Jacques Prévert, qui ont été édités en fac-similé, on voit qu'il indiquait le cadre et qu'il choisissait les acteurs. Il s'était d'ailleurs fâché à la fin avec Carnet, qui n'avait pas voulu prendre les acteurs qu'il désignait. Voilà, ça, j'aimais ça parce que je me disais comment l'écriture est aussi génératrice de films sans même faire de films. Et ça, c'est incroyable, c'est magique. Et puis Prévert, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais enfant, j'avais 11-12 ans, parce que il était ami avec un peintre qui habitait rue de Ménilmontant, Daniel Pipard, et mon père étant copain avec lui, on y était. Et ça m'a fait plaisir de le voir, enfin d'y repenser, de l'avoir vu. Bah c'était oui. Un monsieur extrêmement gentil, oui. Qui sentait beaucoup le pastis, et moi je venais là pour jouer au ping-pong avec la fille du peintre, mais on n'a pas parlé poésie.
Dommage. Mais on voit bien quand même que ça vous a marqué comme Artaud, dont on parlait hier ou avant-hier, parce que lui aussi, c'est avec les mots, avec les textes, il est triture dans tous les sens. Artaud, c'est plus douloureux, hein, c'est plus tortureux. Prévert, c'est assez joyeux.
Oui.
Et drôle, surtout. Il y a beaucoup d'humour.
Mais je pense qu'il y a chez moi les deux côtés, qu'il y a un côté extrêmement douloureux et dans lequel je me reconnaissais dans la lecture des textes d'Artaud. Et puis aussi beaucoup, parce que dans la lecture des gens du grand jeu, j'aime passionnément Roger Gilbert Lecomte, René Daumal. C'est des grands poètes à mes yeux. Et j'aime aussi beaucoup un autre, bien plus mystérieux, qui est Olivier Laronde, qui a écrit Rien, voilà l'ordre, les barricades mystérieuses, etc., qui est un poète malarméen. Mais c'est une poésie, ça, qui me parle directement, qui n'a rien de fantaisiste, de même que j'ai beaucoup aimé la lecture, même si je n'y comprenais pas grand-chose, des cantos, des apandes. Et la première chose que j'ai voulu faire comme spectacle, c'était de monter au Théâtre de l'Ouest parisien 5 cantos, des cantos pisants de Pound, pour lequel j'avais rencontré, je ne doutais de rien, Michel Butor, parce que je lui avais demandé de m'aider à écrire une, entre guillemets, adaptation. Butor, c'est un souvenir merveilleux pour moi, parce que il a été le plus grand pédagogue que je n'ai jamais rencontré. Il m'a tout expliqué, il m'a ouvert toutes les portes en me faisant croire que c'est moi qui lui apprenais quelque chose. Et malheureusement, enfin ou heureusement, mai 68 est arrivé et le projet a disparu.
Vous aimez Shakespeare aussi, hein, les sonnets de Shakespeare. Vous aimez beaucoup Shakespeare d'ailleurs, vous le citez beaucoup. Vous
avez... Oui.
Il y avait une grande. On retrouve tout à l'heure. Je disais que vous étiez entre Prévert et Artaud, mais il y a Shakespeare aussi qui est un peu les deux d'ailleurs.
Bah oui, parce qu'il y a la fantaisie, il y a la gravité, il y a la douleur,
il y a le tragique,
style le tragique, etc. Et un jeune homme de mes lecteurs m'a dit une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il m'a dit vous êtes un écrivain lénino-shakespearien. Alors j'étais stupéfait, je ne voyais pas en quoi Lénine influençait...
Oui, c'est une association inhabituelle.
Oui, inhabituelle, et j'ai trouvé ça très amusant. Alors sa démonstration était très argumentée, mais c'est vrai que Shakespeare est un des auteurs que j'ai lus, que je lis encore, que je relis toujours. Et d'ailleurs, j'ai écrit une version d'Hamlet, Hamlet le vrai, où j'ai tenté de retrouver finalement ce qu'avait pu être le texte initial d'Hamlet, puisqu'il y en a eu des dizaines et des douzaines d'Hamlet, et de retrouver ça, et de retrouver surtout, de retravailler autour du personnage d'Ophélie, que je trouve toujours très mal traité par les mises en scène contemporaines. Et les sonnets, j'ai eu la chance de faire un film à partir d'une mise en scène théâtrale des sonnets de Jean Jourdeuil et Jean-François Perret. Shakespeare sonnet sur Arte.
Shakespeare sonnet.
Qui a été à la fois, ça se pouvait se voir en une fois, puis ça pouvait se voir aussi au fond presque comme des clips. À chaque fois, on passait deux sonnets. Mais juste un mot, mon grand plaisir, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule vente à l'étranger de Shakespeare sonnet. Ça a été vendu à la BBC, à BBC 3, parce que la responsable trouvait extraordinaire de pouvoir montrer les sonnets en français, sous-titré en anglais. Elle trouvait que c'était vraiment magnifique. Et faut dire
le chic du chic.
Le chic du chic, mais c'est des textes. Vous savez, il y en a un que j'aime particulièrement qui dit « Tu étais née pour être femme, mais la nature, en te voyant, s'est pris de toi et t'ajouta un ajout dont je n'ai pas l'usage. À toi, l'amour des femmes, à moi, l'amour de ton amour. »
Bravo. Alors, dans tous les textes que vous avez faits, Gérard Modillac, que vous avez écrit, on a parlé hier des romans d'ailleurs qui ont donné lieu pour certains à des adaptations cinématographiques ou télévisuelles. Et puis, il y a un certain nombre de textes qui sont un peu indéfinissables, un peu inclassables. Alors, vous dites vous-même de ces textes, je cueille mes folies. Alors, je vais en citer quelques-uns, vous allez me dire un petit peu comment vous voyez ça, à quoi pense Voltaire, Madame Gore, Zartmo. Alors Zartmo, on peut le mettre à part parce qu'il a donné lieu à une adaptation théâtrale au Théâtre du Rond-Point. Comment calmer Monsieur Braque, Ruben Black, sa vie, son œuvre, Dom, Célébrité, Paul Dive, L'Hippopotamus. Bon, ça fait déjà pas mal. J'en ai sans doute oublié quelques-uns. Parce que régulièrement, vous publiez des petits livres ou des gros parfois, dans ce, mais qui sont aussi... assez rocambolesque ou assez...
Qui ont une caractéristique, au fond, que vous avez citée tout à l'heure, qui ne repose que sur le mot. Ça n'existe que à travers la langue. Par exemple, « À quoi pense Walter ?», qui écrit entièrement au présent et sans aucun comparatif, décrit la vie d'un adolescent qui a perdu la vue. Mais l'absence de vue, eh bien, c'est l'absence aussi de vocabulaire. C'est l'absence, des fioritures ordinaires de l'écriture avec le passé simple et l'imparfait. Ça marche sur la langue. Zartmo, c'est un type seul qui fait une émission de radio, mais fait-il une émission de radio réellement ou rêve-t-il qu'il fait une émission de radio? Simplement, il n'y a que le mot qui compte. L'univers n'est inventé que par ça. Sa seule réalité, c'est la réalité oral de ce qui soudain se profère dans le noir et on ne sait s'il existe ou s'il n'existe pas. Donc c'est tous ces textes sont des textes finalement qui s'arrachent, je dirais, au réalisme pour rentrer dans un univers plus obscur qui est celui de la littérature. C'est celui de la littérature. Comme si la littérature était une sorte finalement de trou noir de notre existence. Pour l'instant, impossible à visiter, où on peut envoyer de temps en temps des sondes, eh bien, avec ces textes, c'est ce que je fais.
Zartmo, moi, je l'avais entendu dit par Patrick Mill dans une petite salle au Rond-Point, au Théâtre du Rond-Point. C'était une exubérance de mots. On était plongé dans un vocabulaire, dans une avalanche, dans un sorte de délire aussi. Enfin, c'était
un exploit d'acteur extraordinaire.
Incroyable, oui.
Parce que Zartmo ressasse sans cesse les mêmes choses. Et comment Patrick Mill a-t-il pu mémoriser ce texte et ne jamais se tromper? Nous étions là, mon assistant au premier rang, moi au fond, prêt à lui porter secours, et ça ne s'est jamais produit. J'ai dû perdre 3 kilos en transpiration chaque jour où il l'a joué. Mais c'était extraordinaire, parce que il était devenu, tout simplement, un corps de mots. Et ça, c'était la plus belle chose que je pouvais voir et applaudir.
Gérard Mandilla, vous nous en lisez un bout de Zartmo?
Je vais essayer, c'est assez redoutable.
Alors attendez, vous lisez quel passage?
Je vais lire le début.
Le début, d'accord.
Je ris. Je me suis enfermé dans l'appart impossible. Je ris en m'enfermant. Ça faisait rire. Clic, clac, enfermé, closed. J'ai ri en marchant. Un rire en marche. Enfermé, en marche. Ce n'était pas si impossible que ça. Moins impossible que chez Miss Grololo. Plus grand, plus smart. Ici Zart, ici Mo, ici Zartmo qui vous parle en direct sur Radio Parano. La radio des rats, la radio des idiots, la radio des radios. Zartmo sur 69.6 en compagnie de Miss Grololo, la super nana, la gerce, la meuf qui pue, qui pète, qui chie dans l'eau. J'ai ri. C'était bien assez grand, l'impossible. Ha ha! Bien assez grand! L'appart de monsieur, madame. Je me suis foutu à poil. J'ai viré mes frusques. Naked. Je me fous toujours à poil dans les apparts. Il faut que je sois à poil pour l'émission. Sans rien sur le rat. Sans rien sur le dos. Tout nu pour me voir. J'ai viré mon jean, mes grolles, mon perfecto. Ici, Zartmo qui vire sa liquette. Qui vire son slibard en direct sur Radio Parano. La radio qui pue, qui pète, qui chie dans l'eau. Je me suis foutu naked. J'ai ri à poil. Je me suis vu, Miss Grololo. l'eau, dans la glace de l'armoire, à poil dans la chambre à coucher, crédit total, 27 mensualités, après accord de notre banquier, en direct live, de la chambre nunup, de monsieur, madame, pas de bruit, pas de vague, Zartmour, en direct de l'épéda, la coiffeuse, les deux poufs, les bibis, les lolos, les gros bibis, les bibelots, pour enfiler l'anneau sur 69 points sexe, crever, racrever, ça fera de la place dans les HLM. Ici, Zartmour, méchamment à poil pour son émission sur Radio Parano, Zartmo, nuptialement chambré dans le beau mélier Made in France, avec rien sur le rat, rien sur le dos. J'ai viré mes chaussettes, mise gros lolo, nue, toute nue, en Zartmo, à poil sur le couvre-lit. Un truc doux mais pas lisse, doux satin satinette, enfermé, clic. Clac, closed, nu devant la glace pour me voir, Miss Gros Lolo, tranquille, il faut toujours s'enfermer dans les apparts, sinon Balpo, Radio Parano, Balpo, la radio des rats, la radio des idiots, la radio des radios, l'angoisse.
Eh ben voilà, une nouvelle carrière qui commence, vous allez pouvoir le jouer en même temps que l'écrire.
C'est je ne sais pas si j'oserais. Parce que mémoriser ce texte, encore une fois, je crois que l'exploit de Patrick Mill, ce qui me plaît beaucoup, c'est que lorsque Patrick Mill a joué ça, nous ne l'avons ni enregistré, ni filmé. C'est juste un souvenir, quelque chose qui s'est produit et qui ne se reproduira plus. Et ça, je trouve que c'est très beau à mes yeux.
Et alors, il y a aussi encore une autre catégorie de textes, Gérard Mandilla, qui sont des textes autobiographiques. Vous dites de ces textes, j'arrose mon potager.
Alors, voilà, oui.
J'arrose mon potager. J'ai trouvé l'expression jolie. C'est Vive la sociale et la rue des rigoles en particulier, dans lequel vous parlez beaucoup de ce dont on a parlé hier, c'est-à-dire de votre enfance, du 20e arrondissement, de toute cette partie de vous-même qui vous a formé. Mais aussi, voilà, de vous raconter beaucoup de choses. Vous aimez ça, l'autobiographie?
J'aime ça comme genre. Je ne crois pas que ça soit réellement mon autobiographie. Si je devais raconter ma vie, sans doute raconterais-je autre chose. Mais celle-là, je la raconte sur le mode autobiographique. Mais ces livres, comme Vive la sociale, comme Rue des rigoles, sont aussi la vie de mes amis d'enfance, de leur famille. Tout cela, pour moi, ne fait qu'un seul corps et une seule même personne. Donc, j'aime le genre autobiographique parce que écrire à la première personne, ça permet d'avoir un humour sur soi-même, une distance que l'on peut faire partager au lecteur. Sans ça, raconter sa vie, on est dans le pathos et chez moi, la morale était « raconte pas ta vie », donc je ne la raconte pas, ou alors quand je la raconte, c'est pour m'en amuser.
Oui, alors avec un certain culot peut-être, ou une certaine lucidité, je ne sais pas quel mot utiliser, vous parlez de votre rapport à l'écriture, un texte, vous parlez de la mordillatitude. Alors, la mordillatitude, c'est évidemment un rapport au mot, encore un jeu de mots d'ailleurs, parce que vous aimez beaucoup ça, quand vous écrivez des lettres, signées avec des métaphores, etc. La mordillatitude, qu'est-ce que c'est?
Je crois... D'abord, il faut rendre ce titre à son auteur. La mordillatitude, c'est un titre qui m'a été donné par ma fille Alice.
D'accord.
J'ai trouvé ça. Eh bien, c'est justement ce que vous venez de décrire. C'est une relation à l'écrit qui, finalement, renvoie à une attitude dans la vie. À cette distance, à l'humour, au rire, et surtout à... s'empêcher de jamais sombrer dans ce qui est pour moi la grande horreur qui est l'esprit de sérieux. Parce que je crois que ça, c'est la chose la plus affligeante et j'espère jamais sombrer dans ce travers que j'ai dénoncé bien des fois chez d'autres. Quand on voit certains, notamment dans le domaine de l'art contemporain, l'esprit de sérieux est monstrueux et... parce que, notamment, tous les épigones de Duchamp a fait ce qu'il a fait avec beaucoup d'humour et de provocation. Soudain, on prend ça très au sérieux et on en fait des théories. Et tout ça. Moi, je crois que dans ce que j'écris, il y a toujours, en tout cas, j'espère, cette distance de l'humour qui est aussi notre façon de résister à la violence du monde dans lequel nous sommes. Parce que c'est... Le rire, c'est toujours l'arme ultime, c'est toujours... Vous savez, il y a cette photo extraordinaire d'un partisan de Zapata qui va être fusillé et qui regarde le peloton d'exécution et il se marre. c'est magnifique, c'est extraordinaire d'avoir ce courage-là, d'avoir cette audace. Ben, j'aimerais que ce que j'écris renvoie à ce sourire et à ce rire face au peloton d'exécution.
Oui, ça me rappelle une de vos phrases, je crois que c'est un de vos héros ouvriers qui dit à son patron ou à l'inspecteur du travail, « Vous savez combien il faut de muscles pour sourire ? Pourquoi me demandez-vous cela ? Il en faut 17. Un jour, vous devriez essayer de les mettre en mouvement. »
Oui, ben voilà.
C'est ça la mordie attitude.
Exactement. Mais lorsqu'on tournait Corpus Christi avec Jérôme Prieur, un des exégètes nous a dit que la qualité essentielle de l'exégète, c'était d'avoir le sens de l'humour. Et lorsqu'on se retrouvait avec Pierre-Antoine Bernheim, Eric Stemlen, Jérôme Prieur et moi pour parler d'exégèse, mais c'était des parties de rigolade qui n'en finissaient pas. Dire, il suffit de lire les évangiles pour lire quelques blagues assez formidables. Hein. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, qui ne fonctionne qu'en français, c'est merveilleux. Parce que c'est quoi ? C'est un calembour.
D'accord. Bon, alors vive l'humour. Et vive la mordie attitude.
J'espère bien. Et surtout le mordie autographe.
Merci Gérard Mandilla.
Merci.
Nu. Réalisation Angélique Thibault, prise de son Thomas Robin, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À Voix Nu se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.